Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À moins d'une semaine de la naissance du Sauveur, nous sommes encore blottis auprès de la crèche. Du moins, j'espère que vous n'avez pas seulement été blottis cette semaine autour de vos victuailles, mais bien autour de l'enfant Jésus, de sa mère, de son Père putatif et de ses chorales angéliques qui entouraient l'enfant. Nous sommes toujours, disais-je, blottis auprès de la crèche. Et après avoir admiré l'enfant Jésus, j'ai vu vos yeux il y a quelques jours et j'en suis toujours ému de voir, quel que soit votre âge, quel que soit par ailleurs votre tempérament, de voir cet émerveillement devant une petite poupée de pas grand-chose dans cette grotte du fin fond de Tournan-en-Brie. Eh bien, nous avons admiré, vous l'avez admiré, je l'ai vu, j'ai admiré avec vous cet enfant et nous avons sondé sur son doux visage la tendresse de Dieu pour ses créatures. Il faut maintenant nous recueillir auprès de lui pour entendre ses enseignements. Vous voyez, avant de retourner à nos activités, nous sommes encore en vacances, pour nombre d'entre nous, avant de revenir à notre vie quotidienne, il faut, après avoir admiré Jésus, il faut l'écouter. Parce que Jésus ne veut pas seulement que nous contemplions, que nous l'adorions gentiment, que nous le pressions dans nos bras, si nous le voulons, il veut encore nous enseigner pour que sa naissance ne soit pas seulement une sorte de petite parenthèse, une sorte de petit conte de fées qui viendrait égayer quelques jours d'hiver. Vous voyez, il veut avoir une incidence profonde sur nos vies, alors il nous enseigne. Mais parce qu'il est encore un enfant, il est dépourvu de l'usage de la parole, ce tout petit, alors c'est en quelque sorte par un porte-parole qu'il s'adresse à nous aujourd'hui, et ce porte-parole, eh bien, c'est l'apôtre Saint Paul dans son épître. Et en fait, par la bouche de saint Paul, c'est l'enfant Jésus qui d'ores et déjà nous enseigne. Et de quoi s'agit-il? Que veut-il nous dire cet enfant Jésus? Et que nous dit saint Paul? Eh bien, il nous adresse d'abord un doux reproche avant de nous adresser une parole libératrice. Ce doux reproche, c'est celui de saint Paul qui est navré de voir ses fils, ses chers fils, ses ex-païens de Galatie, puisque c'est l'épître aux Galates, quelques mois seulement après leur évangélisation et leur baptême en masse, comme on le faisait à l'époque, c'était pas à l'époque un parcours du combattant pour être baptisé, on baptisait à plein saut, si j'ose dire. Eh bien, quelques mois après leur baptême, suivant les consignes de prédicateurs qui venaient de Jérusalem, on défaisait patiemment ceux que saint Paul avait montés patiemment. Et on leur apprenait, couvert de l'autorité de Paul, de Jacques et de Jean, on leur apprenait qu'il fallait observer les prescriptions juives que précisément saint Paul leur avait demandé d'abandonner ou de ne jamais pratiquer s'ils venaient du paganisme. La question avait été réglée lors du premier concile, on parle d'un conciliabule, du premier concile de Jérusalem, 2 ou 3 ans plus tôt, et voilà que les apôtres de Jérusalem en remettaient une couche. Alors ça a provoqué évidemment la fureur de saint Paul, on sait avec quelle fougue il sait s'en prendre à ses contradicteurs, et au début de cette épître, non pas le texte d'aujourd'hui, mais dans les chapitres précédents, saint Paul s'en prend avec une hargne rare à ses apôtres qui, de Jérusalem, envoient défaire ce qu'il a fait. Il revendique l'égalité d'avec eux en disant « Certes, je n'ai pas été dans l'entourage du Seigneur Jésus, mais enfin j'ai été comblé de grâce un signe que vous-même, les apôtres, n'avez pas reçu. Le Seigneur est venu me dicter exactement ce qu'il voulait et il est venu m'envoyer en mission en qualité d'apôtre. J'ai donc la même qualité que vous et vous seriez gentil d'écouter mes considérations. » C'est comme ça que saint Paul ouvre l'épître aux Galates qui n'est pas piqué des vers, vous voyez. Et ensuite, il aborde la question des observances rituelles. Parce que pour saint Paul, il ne faudrait pas s'y méprendre, mes frères. Saint Paul n'est pas seulement quelqu'un d'orgueilleux qui s'engage dans des querelles de personnes contre les autres apôtres. Il n'a que faire aucun respect humain, il n'a que faire de sa propre petite personne. Souvenez-vous de cet échec qu'il a essuyé à l'Aréopage d'Athènes. Peu lui importe qu'il continue à prêcher Jésus-Christ alors qu'il s'est fait moucher par l'élite d'Athènes. Il n'a donc rien à faire de sa personne. S'il s'acharne à défendre la caducité des rites juifs, c'est parce que pour lui, cette question n'est pas du tout secondaire, mais qu'elle est fondamentale, bien au contraire. Il s'agit de savoir ce qui sauve le chrétien. Est-ce que ce qui sauve le chrétien, c'est la loi, ce sont les observances rituelles, et singulièrement les juives, ou est-ce que c'est la foi en Jésus-Christ et la foi seulement? voyez, la question est celle-ci. Le chrétien est-il sauvé par l'accomplissement de la loi ou est-ce qu'il est sauvé par la seule foi? Ce que stigmatise saint Paul, et j'en viens au texte là, c'est cette tendance très humaine, qui nous affecte tous d'une manière ou d'une autre, à chercher son salut dans les observances légales, dans le rituel. Tout ceci relève, selon les paroles mêmes de l'apôtre, d'un infantilisme. Nous sommes des gamins, à chaque fois que nous croyons comme ces païens mal convertis, ou ces chrétiens venus du judaïsme, qu'en observant quelques petites recettes de cuisine que nous trouverions même dans les rituels romains catholiques de nos mystères, nous obtiendrions le salut. Saint Paul ne s'en prend pas à la loi en tant que telle. Il est même d'une observance rare. Et pharisiens issus de pharisiens, vous savez, je ne vais pas vous ressortir tout fédigré de Saint Paul, il le fait à l'envi dans ses épîtres. Saint Paul n'a aucun mépris pour la loi. Simplement, Saint Paul reconnaît que les prescriptions mosaïques qui venaient bien de Dieu n'ont plus lieu d'être. C'en est terminé de la loi juive. C'en est terminé parce que cette loi n'a eu d'autre utilité que de préparer le cœur de tout un peuple à entendre ce que son Dieu voulait lui dire. Les observances juives, la loi mosaïque, qu'est-ce que c'était? C'était des prescriptions qui étaient inspirées par Dieu pour se substituer à d'autres prescriptions païennes, celles-là. Dieu avait voulu arracher le peuple élu à toutes sortes de convictions erronées du paganisme, qui, eux déjà, les païens, croyaient que en versant telle ou telle tribu au dieu soleil, en allant mettre du lait au pied des arbres, comme on le fait toujours, vous le savez peut-être, chez certains païens en Bretagne, au solstice notamment, eh bien, tout cela était vain, il fallait arracher ce peuple à ses observances païennes, alors on y a substitué d'autres observances. Des observances alimentaires, des observances de lever de nuit, des observances de jubilé, des observances qui, toutes, quasiment toutes, reprenaient en réalité les rituels païens et les, j'allais dire, les christianisaient et les divinisaient, les mosaïsaient si l'on veut. Vous voyez donc que la loi avait pour simple objectif d'arracher le peuple à d'autres lois qui étaient tout à fait saugrenues et qui détournaient l'homme du Dieu unique parce qu'elle vénérait ces lois des divinités païennes. Eh bien, saint Paul considère que l'heure est venue d'abandonner ces pratiques, parce que le cœur du peuple juif est prêt, voire même il commence à se corrompre, et si l'on attend davantage, on n'arrivera au pire. En effet, du temps de Jésus, et donc du temps de l'apôtre, a fortiori, dans quoi avait-on versé, après avoir observé les prescriptions mosaïques, après avoir abandonné les lois païennes insensées, on en venait petit à petit à diviniser la loi elle-même. Et qu'observe-t-on aujourd'hui dans le judaïsme tardif, le judaïsme d'après Jésus-Christ, mais une divinisation de la loi. Les 600 et quelques préceptes et la Torah tiennent lieu de Dieu. Et certains juifs outranciers, certains juifs ultra-orthodoxes, n'ont finalement que faire de Dieu, ils n'aiment pas trop qu'on leur dise cela, mais pour avoir discuté avec eux, je sais qu'on tape là où ça fait mal, ils divinisent la Torah, ils divinisent les prescriptions. Persuadés que cette loi leur offrira le salut. Saint Paul voulait, vous voyez, après avoir montré la beauté de la loi, son utilité pendant plusieurs siècles, il voulait éviter cette corruption. Il voulait éviter que cette loi ne s'envenimât et devint un dieu pour les juifs. Alors il explique à ces hommes-là de son temps qu'il faut absolument s'arracher à la logique légaliste pour ne pas devenir ce que sont finalement les juifs d'aujourd'hui. Je parle des juifs orthodoxes, car il y a des tendances juives qui sont beaucoup plus spirituelles et certains même. Vous connaissez peut-être ce mouvement des Juifs pour Jésus, ou des Juifs messianiques, qui sont, eux, bon, à deux doigts de se convertir. Malheureusement, le cœur est encore tout entier versé dans l'Ancienne Alliance. Il faudra un petit coup de pouce ou un gros coup de pouce du bon Dieu et une docilité, enfin, de ce cœur et de cette intelligence juive pour venir à la vérité pleine et entière. J'en reviens à ce qui nous concerne. Voyez que saint Paul nous demande à ses contemporains, mais à nous aussi, à travers les 2000 ans qui nous séparent, de passer de l'esprit de la loi qui tue, si on la considère comme un dieu et un moyen de salut absolu, à l'esprit. Il nous demande de passer à l'âge adulte. Cet âge adulte qui n'est pas facile à acquérir déjà dans l'ordre de la vie naturelle. Effectivement, l'adolescent apprend petit à petit à ne plus appliquer froidement, j'allais dire, où, en se revenant les prescriptions que ses parents, tant bien que mal, lui ont appris, le savoir-vivre, la cohérence du propos et d'autres disciplines qu'on lui apprend depuis l'enfance et qui étaient louables pour un temps, mais qui deviennent un carcan pour cet adulte en gestation, et cet adolescent apprend l'autonomie. Et cette autonomie, parfois, lui coûte. Cette autonomie, parfois, il ne veut pas s'y jeter. Et l'on voit, parmi nos contemporains, des adolescents éternels qui ne veulent pas se jeter un bon coup dans cette autonomie. Il leur faut toutes sortes de vieilles lunes, toutes sortes de petites règles qui phagocytent leur vie, mais qui, au moins, leur donnent une certaine tranquillité. Ce à quoi appelle saint Paul, c'est la haute mer. Le tout in altum, il ne l'a pas entendu de la parole même de Jésus parce qu'il n'était pas sur la barque avec Pierre et les autres, mais enfin, le Seigneur lui a révélé la même chose. Il lui a demandé d'aller prêcher aux nations et aux Juifs, d'avancer en eau profonde, d'avancer au gré de la grâce divine, d'avancer comme un adulte qui n'a pas besoin de petites règles qui viendraient entraver sa vie, mais qui a besoin de se prendre en main et d'avancer à l'imitation de Jésus-Christ. Parce qu'enfin, c'est ça que prône saint Paul. Vous voyez, j'en finis avec cette homélie et je reviens à la crèche. En quoi consiste notre vie chrétienne? En observance légale, certainement pas. Notre vie chrétienne ne consiste qu'en une chose, regarder l'enfant Jésus, le voir grandir pendant ses 30 ans de vie cachée. Vous me direz, on ne trouve pas grand-chose dans l'Écriture pour prendre modèle, peu importe. Laissez votre imagination travailler et priez le Saint-Esprit que cette imagination ne divague pas trop. Et ensuite, pendant les 3 ans de vie publique de Jésus, jusqu'au calvaire et jusqu'à sa résurrection. Le Seigneur nous demande d'être semblable à lui. Voilà ce qui doit nous tenir lieu de loi. Voilà la seule chose qui doit focaliser notre regard et qui est source de notre salut. La personne de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, et qui est venu nous rejoindre dans les moindres détails de notre existence et dans les moindres replis de nos turpitudes. Ce Jésus, je ne m'attarderai pas dessus parce que je conclue ma conclusion, mais j'y reviendrai lorsque nous parlerons de la présentation, puisque vous avez bien entendu que l'évangile d'aujourd'hui est tiré de la présentation, du texte de la présentation de l'enfant Jésus. Qu'est-ce que c'est que la présentation de l'enfant Jésus? On le sait. Ce n'est pas Jésus qui est présenté à son Père, selon la tradition juive. Ce n'est pas seulement ça, parce que le Père éternel n'a pas à se faire présenter son Fils, voyez, qui est avec lui de toute éternité. Je crois qu'il le connaît. On n'a pas besoin de lui présenter Jésus. En revanche, ce qui se passe le jour de la présentation, c'est un retournement. C'est l'ensemble du temple et de la loi mosaïque et des prescriptions juives qui sont présentées à l'enfant Jésus. Pour que Jésus en prenne possession, abolisse ce qui est caduque et devienne la loi nouvelle. Voilà ce qui est la logique du christianisme et voilà ce qui doit occuper notre esprit, vous voyez, lorsque nous recueillons les enfants, lorsque nous recueillons les enseignements de cet enfant qui se tient à quoi dans la crèche, mais qui nous dit déjà beaucoup par la bouche de ses apôtres. Vous voyez, si nous pouvions profiter de ce temps de Noël pour réfléchir quelque temps en attendant l'épiphanie, vous avez encore, je sais, quelques fêtes de fin d'année, comme on dit, un 31, un 1er, peu importe, eh bien, consacrez peut-être quelques heures tout de même, quelques minutes, à cette semaine, à considérer cela, que nous avons été libérés par le Christ. Peu importe les lois, peu importe les observances rituelles, je ne crache pas sur le rituel romain, mais peu importe tout cela en définitive, ce qui importe, c'est nous unir à Jésus, et vivre comme Jésus, ou laisser plutôt Jésus vivre en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.